science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent, which is the ability to learn from experience, to play in a hay.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velo côtelé.
Bonsoir, il est 18h, il est 19h et vous êtes sur Radio Campus. Nous sommes lundi et donc c'est l'heure de l'émission Science Alors. C'est une émission scientifique qui a commencé il y a un an maintenant et dont l'objectif est de faire discuter sur une même question des gens qui viennent de sciences dures et de sciences humaines, à chaque fois sur une question qui évolue. Et aujourd'hui, la question qui va nous intéresser pourrait se résumer au titre « Hors les labos ».
L'année dernière, un jeune Américain de 15 ans, Jacques Andraka, a développé un test de dépistage du cancer du pancréas. C'est en se basant sur des articles scientifiques en libre accès sur le net que son idée est née. Il a alors envoyé son projet à 200 chercheurs et a reçu 199 lettres de refus. Un seul professeur s'est intéressé à son projet et lui a donné une chance. Ils ont alors travaillé ensemble pour aboutir à un test de détection du cancer beaucoup plus rapide et beaucoup moins cher que les tests existants à l'heure actuelle. Un autre exemple d'autodidacte est le mathématicien indien Ramanuja. Vivant au siècle dernier, il s'est formé en mathématiques grâce à deux livres seulement. Il a ensuite travaillé seul pendant des années avant d'envoyer son travail à des chercheurs anglais. Ceux-ci ont d'abord pensé à une supercherie avant de s'apercevoir qu'il s'agissait là du travail d'un génie. Ramanuja a apporté de grandes avancées en théorie analytique des nombres et a laissé de nombreux résultats à démontrer qui sont encore étudiés aujourd'hui. Des chercheurs amateurs, aujourd'hui, on en rencontre encore dans certains domaines. En astronomie ou en entomologie, science où l'observation a une grande importance, les chercheurs professionnels et les amateurs avancent main dans la main. Le Muséum d'histoire naturelle, par exemple, fait régulièrement appel à eux pour la collecte de données. Des sociétés savantes et autres associations permettent la formation et les échanges entre ces amateurs. Parmi tous ces chercheurs non professionnels, n'oublions pas de citer les doctorants n'ayant aucun financement. Leur répartition est très inégale selon les domaines. Et à Clermont-Ferrand, par exemple, un quart seulement des doctorants en sciences humaines est financé, alors que 100% des doctorants en sciences exactes ont eu un financement pour l'année 2010. Comment ces chercheurs de l'ombre vivent-ils leurs recherches? Comment ces amateurs communiquent-ils avec les autres chercheurs? Comment diffusent-ils leurs découvertes? Ont-ils accès aux mêmes moyens que les autres chercheurs?
Ce sont donc les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. Alors, autour du plateau, pour discuter de ces questions avec nous aujourd'hui, il y a François Fournier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entomologue amateur. Et puis nous avons également avec nous Emmanuel Fournier, qui est docteur en archéologie.
Bonsoir.
Et alors, comme on le précisait hors antenne juste avant, malgré que vous ayez le même nom, eh bien en fait, vous ne partagez pas, du moins en apparence, enfin ce que vous savez, d'ancêtres communs.
Science alors ! Éprouvette et velours côtelé.
Et alors, on va tout de suite commencer cette discussion. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-être en quelques mots, vous décrire pour qu'on comprenne qui vous êtes. Parce qu'à l'habitude, plutôt ici, on a des gens qui viennent du milieu universitaire, qui sont ancrés dans ce milieu-là, disons, professionnellement. Et vous, vous n'avez pas forcément le même profil. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots
Je commence.
Alors, bon, Emmanuel, pour commencer.
Oui, donc j'ai un profil quand même assez universitaire. J'ai soutenu une thèse, d'abord, que j'ai commencé à Clermont-Ferrand. Et ensuite, j'ai suivi ma directrice de thèse à Montpellier, où j'ai soutenu ma thèse en 2010. À cette époque-là, donc, j'étais rattachée au laboratoire de Montpellier. Et moi, je travaillais à Clermont-Ferrand, donc pas vraiment de lien direct avec le laboratoire lui-même. Et depuis la soutenance de la thèse, je suis rattachée à un autre laboratoire à Paris. Et je vis à Clermont-Ferrand, du coup, voilà, les liens sont assez distendus là aussi.
Donc, en fait, vous êtes rattaché à un laboratoire institutionnel. Par contre, est-ce que vous avez un financement?
Alors, j'en ai pour être défrayé lors de colloques ou d'aide pour des corrections lors d'articles. Ou, voilà, c'est plutôt de...
On vous soutient comme ça?
D'un soutien, oui.
D'accord. Et vous, François?
Alors, moi, le parcours, il est totalement différent. Il est amateur à 100%. J'ai commencé l'entomologie tout petit. Bon, ça n'est pas... papillons m'ont passionné. Après, bon, quelques péripéties en dehors de l'entomologie. Ce qui m'a refait démarrer, c'est la rencontre d'un entomologiste qui est de Clermontois, Monsieur Anglard, qui avait une très belle collection, qui connaissait très bien la faune auvergnate en particulier et française, et qui m'a lancé. Voilà. Donc j'ai suivi. En entomologie, la transmission du savoir est une chose très très importante. Quand on arrive à la fin de sa vie, j'espère la plus longue possible, mais on a envie que ça ne s'arrête pas, que la collection ne meure pas et qu'on transmette son savoir, ses collections, donc soit dans des musées, soit à quelqu'un d'autre.
Ça veut dire que ces connaissances-là, elles ne sont pas comme dans d'autres domaines, uniquement, on ne peut pas uniquement les lire, par exemple, les articles, et puis ça ne suffit pas ?
Non, parce que beaucoup d'amateurs n'écrivent pas, ne publient pas.
Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amateurs dans cette science-là, alors ?
Il n'y a pas, énormément d'entomologistes en France, hein. Mais une bonne partie ne publie pas. Et parce que ils n'ont pas la culture, pas forcément cette culture-là de l'intérêt de la publication, qui est pourtant capital, parce que vous avez trouvé une espèce nouvelle. Si c'est nouveau pour la science, vous allez la publier. Mais des inventaires, par exemple, souvent des gens ne l'ont jamais publié. Et par contre, c'est très intéressant. Bon, je suis en train de retrouver le journal de chasse d'un entomologiste tiernois des années 1850 qui a vendu sa collection au 19e siècle. Donc, on n'avait plus aucune donnée. Et j'ai retrouvé ce journal et c'est d'une richesse absolument étonnante.
C'est de l'histoire presque, en fait.
C'est de la biohistoire. Ouais, voilà. Mais c'est intéressant parce que 150 ans après, est-ce qu'on trouve les mêmes espèces ? On peut comparer parce qu'on a des éléments précis.
Donc ça veut dire, de ce que vous décrivez, que ça ressemble à être un travail assez solitaire, finalement ?
Alors, souvent, les entomologistes sont des gens, oui, assez solitaires, voire même très. Il y a des associations. Bon, il y a une association entomologique d'Auvergne, par exemple, qu'on a créée. Donc, on a besoin de ces liens pour s'aider, pour publier aussi les livres. Bon, on a publié un atlas des papillons du Puy-de-Dôme. On n'aurait pas pu le faire tout seul. Il fallait absolument d'autres collègues pour nous aider.
Et alors, vous, Emmanuel, donc vous êtes dans une situation différente, on l'aura compris, mais justement, comment est-ce que vous parvenez à garder des liens avec le milieu universitaire, avec vos collègues, voire comment est-ce que vous parvenez aussi à accéder aux publications, étant donné que vous avez une activité professionnelle qui n'est pas à la recherche ?
En fait, je réponds aux annonces qui sont publiées, tout ce qui est appel à communication ou appel à des articles. Et j'essaye de continuer la recherche, déjà en mettant en valeur ce que j'ai fait lors de ma thèse et en publiant des articles en rapport avec ce que j'avais déjà fait et en faisant aussi de nouvelles recherches et en travaillant sur de nouvelles problématiques. Donc j'essaye de diffuser mon travail et de me faire connaître aussi en me déplaçant dans les colloques. Alors, il n'y a pas de financement pour ça, les articles ne sont pas rémunérés et c'est un travail.
Et vous avez accès facilement à tous les articles, aux bibliothèques, aux articles parfois qui sont payants. Et souvent, c'est l'université de rattachement. Donc là aussi, vous laisse tout l'accès à...
Oui, comme j'ai un laboratoire de rattachement, j'ai un code pour pouvoir lire certains articles.
Et une question toute pratique. Si vous avez une activité professionnelle en dehors, est-ce que votre employeur vous laisse participer à des colloques Ça, c'est quelque chose qui est automatique ou ça fait l'objet aussi de négociations avec votre employeur ?
Alors, comme je travaille beaucoup, je ne travaille pas beaucoup justement, mais plutôt donc en CDD. Donc non, si je dois me déplacer pour un colloque, il faut prendre un jour de congé et c'est en dehors du travail. C'est une activité complémentaire.
Mais vous n'avez pas de mal à poser ces jours de congé dans une organisation qui finalement, sans doute, peut-être, ça dépend des contextes professionnels, mais fonctionne complètement différemment du rythme universitaire ou du mérite de publication.
Jusqu'à présent, non, ça ne s'est pas présenté. Non, je n'ai pas eu d'obstacle jusqu'à présent en tout cas. Puis j'ai des longues périodes de chômage, du coup ça me permet de travailler sur les articles et d'avoir le temps de le faire aussi.
D'accord. Et vous, François, vous avez aussi, donc, vous avez parlé tout à l'heure d'une publication à laquelle vous avez participé, de catalogage des papillons, ou du moins de...
Voilà, oui, bon, là, je publie soit des articles dans des revues. Alors, l'Association entomologique d'Auvergne publie une revue.
D'accord.
Donc, je fournis beaucoup. et puis, je publie dans d'autres revues nationales, voilà, et de temps en temps internationales, quand j'ai la chance de trouver une bête
quelque chose de croustillant,
qui vaut vraiment la peine. Après, on essaye de travailler aussi avec des spécialistes. Ce qui manque en France, c'est des spécialistes de la description. Il n'y a plus personne. Bon, je suis allé au Laos l'année dernière avec l'opération Canopée. J'ai ramené des espèces. Il y a des espèces nouvelles, voire des genres nouveaux. Et mon collègue qui faisait les coléoptères, et c'est pareil. On a ramené des bêtes. On est allé au muséum. Le muséum m'a dit personne. Il n'y a personne pour identifier ces bêtes. Et voilà, donc c'est dommage. C'est le gros problème. C'est le gros problème de toutes ces expéditions. Ils ramènent du matériel et il n'y a personne pour les identifier.
Mais ça veut dire que ce n'est plus enseigné dans les universités en France, la science de la description, le naturalisme.
Voilà, c'est enseigné, mais on ne fait plus de... Voilà, tout ce qui est description d'espèces, c'est passé de mode. Hein. On fait de l'ADN. Alors, c'est vrai que, par exemple, les études sur l'ADN permettent de différencier des espèces de manière beaucoup plus précise que simplement avec les critères anatomiques classiques. Alors ça, c'est pas à la portée de n'importe qui. Il n'y a que les labos qui peuvent le faire. Mais il n'y a pas assez de chercheurs. Voilà. Au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, pour les papillons, ils sont 5. Il y a, je ne sais pas combien de millions d'exemplaires de papillons au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et ils ne sont pas tous identifiés.
Mais vous, dans votre domaine, il y a trop de chercheurs. C'est peut-être un petit peu l'inverse, en fait.
Non, je ne dirais pas trop non plus.
C'est un champ qui est très concurrentiel.
Alors oui, il y a beaucoup de concurrence. Après, on est tous spécialisés dans des domaines hyper précis, sur des périodes assez mince, ou des territoires très différents. Donc, il y a beaucoup de chercheurs, oui, mais peu sur certaines spécialités. Après, il y a peu d'emplois, il y a peu d'offres, voilà.
Si on voulait essayer de faire le lien entre vos deux domaines, on pourrait dire que c'est peu soutenu par l'État, mais peut-être aussi juste par le... C'est pas lucratif, alors il n'y a pas de moyens, c'est ça ?
Oui, l'entomologie, si elle n'a pas un intérêt direct pour l'agriculture... pour la santé, ça n'intéresse personne.
Voilà. C'est pas marchandisable entre
guillemets. C'est pas marchandisable. Enfin, voilà, il y a aucun intérêt. Enfin voilà, entre guillemets, c'est voilà, s'intéresser.
Nous allons en archéologie parce qu'il y a le tourisme, ça plaît aux gens en général. Donc il y a quand même un intérêt financier. Mais bon, je pense qu'avec la crise et autres...
Oui, voilà, mais en archéologie, c'est pareil. Quand vous faites une... Enfin, je vous donne un exemple. Nous, on fait des inventaires pour les carrières. Mais je sais qu'il y a un projet pas loin de carrière où il y a un site archéologique remarquable. Si on veut faire les fouilles,
ça coûte... Il faudrait que quelqu'un construise quelque chose dessus pour le faire.
Voilà, il y a que ce moment... Bon, trouver de l'argent simplement pour se dire, tiens... là, il y a quelque chose peut-être d'intéressant. Je pense que trouver les financements, c'est très difficile aussi.
Il y a beaucoup d'inventaires à faire dans les musées aussi, et personne pour les faire aussi.
Le musée Lecoq, lui, depuis pas mal d'années, on travaille avec eux et on a fait l'inventaire complet, enfin quasi complet, des papillons au moins. Et les coléoptères, c'est en route des collections du musée Lecoq. Bon, mais ça, c'est... Bon, on a réussi à trouver... quelques financements ou du bénévolat aussi.
Et ça marche par bénévolat, donc ?
Aussi. Mais bon, il y a une part de financement importante du musée. Il faut reconnaître.
Bien, on va tout de suite passer à notre grand jeu, l'énigme du jour. Alors, science alors ! Éprouvette et velours côtelé. Alors voilà, donc aujourd'hui, j'ai préparé une petite énigme qui ne sera pas une énigme historique, mais qui sera une énigme géographique. Donc l'idée, c'est de retrouver le nom du pays. Donc vous évoque les sons qui vont suivre et donc on écoute tout de suite.
«
c'est une montagne au bord de la mer. Au bord de la mer, c'est-à-dire c'est une terre d'échange, et une montagne, c'est-à-dire c'est une terre de refuge. Ouais. Et il y a eu tellement de populations diverses qui sont passées par là, qui se sont réfugiées là, qu'on arrive à une situation où chaque communauté a des siècles d'oppression, de ressentiment, et qui se déverse aujourd'hui.
Madame Kaufmann, bonjour. Vous venez d'entendre comme nous avec émotion le récit de Marie Seurat. Est-ce que cette entrevue, pour vous, c'est peut-être le bout du tunnel aussi ?
Je crois réellement. Enfin, on a toujours peur de croire et d'être déçu. Mais là, je crois réellement qu'on touche à quelque chose. D'abord, cette entrevue, je crois que ça signifie quand même quelque chose. En plus, le fait qu'elle ait été rendue officielle par le débat.
La circulation aussi est très importante. Et puis alors, il y a les prix. Le moindre appartement coûte aussi cher qu'un appartement avenue Foch à Paris. Une chambre d'hôtel 3 étoiles, bien, il faut coûter 800 francs par jour. Et un repas qui coûtait 40 francs, un repas dans un petit restaurant, ce repas dans
un petit restaurant, maintenant revient à plus de 100 francs. فجبل رهيب وديع جالس بين البحر والسهول جلوس شاعر بين الأبدية والأبدية.
C'est, tous ces sons évoquent un pays. Et si vous trouvez le pays dont il s'agit, eh bien, n'hésitez pas à appeler donc, au 04 73 90 52 61. 04 73 90 52 61. C'est Laurent qui aura le plaisir de prendre votre réponse et vous pourrez la dire à l'antenne. Et le grand gagnant donc, aura la chance de pouvoir nous rejoindre après l'émission et de partager un verre avec nos invités et avec nous.
Alors bien sûr, sur le plateau, vous n'allez pas tout de suite donner l'idée si vous en avez une, mais est-ce que quelque chose vous trotte à l'oreille ? Est-ce que vous avez une idée de la destination qui a été illustrée par l'univers sonore ?
Non, moi aucune.
J'ai une petite idée, mais bon, il y a des choses qui ne vont pas.
Bon, alors on en parlera à la fin de l'émission, et comme ça, on trouvera si on a réussi à trouver ou pas. On réfléchira ensemble à la destination. On va poursuivre la discussion, si vous le voulez bien. Je vous rappelle que l'émission de Science à l'heure d'aujourd'hui est consacrée à la science hors des labos, des gens qui sont plus ou moins éloignés du milieu académique classique, de par leurs ressources ou alors de par leur quotidien. Tout à l'heure, François, on a évoqué la question des publications. Vous avez parlé un petit peu de la manière dont vous publiez. Est-ce que Emmanuel, elle, précisait que Elle avait accès aux livres, aux publications des autres grâce au support de la BU de l'université où elle est rattachée. Vous, si vous voulez lire ce que vos pairs publient.
Il y a Internet. Alors, une bonne partie des revues actuelles mettent en ligne leurs publications au bout de 2 ou 3 ans.
D'accord.
Donc, après, on ne peut pas être abonné, en effet, à toutes les revues.
Voilà, c'est onéreux, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Ouais.
Donc, après, il y a le réseau.
D'accord, ok.
Hein, les réseaux de copains, certains s'abonnent à une revue, d'autres à d'autres, et on se les partage. Voilà. Et puis,
c'est de la débrouille alors, presque, parfois ?
C'est un peu de la débrouille, et puis les gens, quand vous travaillez avec des scientifiques d'un peu haut niveau, la plupart... vous envoie quand ils font une publication, vous envoie leur PDF.
Parce que vous avez l'habitude de travailler avec eux, ils savent que ça vous intéresse.
Et donc, après, bon, on peut toujours avoir des gens qui gardent pour eux. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'enjeu financier, les publications sont relativement et les données sont relativement facilement transmises. Alors, les données de terrain, par contre, c'est un autre problème.
Vraiment ?
C'est un autre problème parce que là, il y a de l'argent qui se fait. Parce qu'il y a des bureaux d'études. Et donc, quand vous donnez... il y a des bureaux d'études qui facturent les données. Donc, quand vous les mettez sur le domaine public, c'est la grande discussion actuelle. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on donne toutes nos bases de données ? Rien que pour le Puy-de-Dôme, moi, j'ai pratiquement 30 000 données de papillons. Si on, voilà, est-ce qu'on les vend, mais dans ce cas-là, elles ne sont plus à vous. Et si elles sont utilisées, bon, malheureusement, mais ça, dans tout domaine scientifique, on n'est pas toujours cité.
J'imagine. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on pourrait résumer que dans les deux situations, Internet, c'est un outil qui vraiment permet, même si on est loin physiquement, et de se rapprocher finalement et de participer à la progression de la science.
Ça nous a changé la vie. Hein.
Bien sûr. Oui, on trouve toutes les informations qu'on veut. Voilà. On peut accéder aux bibliographies, aux articles nouveaux qui sont publiés.
Parce que surtout que les bibliothèques, tout dépend. Mais par exemple, les bibliothèques clermontoises en entomologie ne sont pas très, très riches. Donc, il fallait aller à Paris. Donc, au muséum, c'est ouvert un jour par semaine.
Tout le monde se précipitait.
C'est pas fait pour, pas fait pour les provinciaux. Donc, Internet a vraiment facilité énormément les choses. Ouais. Et puis, il y a 40 ou un peu plus de 40 ans que j'ai commencé, il n'y avait pratiquement pas de livres. C'est absolument étonnant le développement de livres de très haute qualité qui ont été publiés. Malheureusement, très peu en français, mais c'est des outils de travail excessivement intéressants. Quand j'ai commencé, il n'y avait pratiquement rien. Il y avait les livres du 19e siècle ou du début du 20e, mais qui étaient des magnifiques, mais hors de prix.
Et du coup, l'entomologie, donc, du coup, c'est un domaine qui, en France, n'existe plus ou que par des amateurs, alors qu'il y a des labos à l'étranger qui continuent de travailler, qui ont des vrais labos avec de l'argent pour travailler là-dessus. Est-ce que, du coup, vous travaillez avec ces chercheurs? Est-ce qu'ils vous invitent? Comment ils vous regardent?
Alors, avec certains, on n'a aucun souci. Moi, quand j'ai un petit papillon compliqué que je n'arrive pas à identifier, il y en a qui s'est promené un peu dans toute l'Europe, d'aller de musée en musée jusqu'à trouver le spécialiste qui arrive à l'identifier. Oui, on arrive à travailler avec eux. Et en effet, il y a eu un article dans la Société entomologique de France sur le rôle des amateurs. En France, 90% des découvertes sont faites par des amateurs. Ce qui est intéressant, mais ce qui n'est pas normal.
Voilà. Alors, pour compléter, Emmanuel, vous aussi, vous n'êtes pas directement dans un laboratoire, même si vous y êtes affecté. Comment vos collègues, qui eux ont un poste, envisagent de travailler avec vous? Ou est-ce que c'est complètement libre? Ils ne font pas de différence entre quelqu'un qui est soutenu financièrement par un laboratoire à 100% et vous qui, disons... est-ce qu'on fait une différence entre ceux qui sont financés, les autres?
Je dirais que c'est un petit peu les deux. Non, je pense qu'on peut vraiment travailler avec d'autres personnes. Sans souci, ça dépend qui, évidemment. Ça dépend des affinités aussi, du thème sur lequel on travaille.
Vous n'avez pas de personnes, par exemple, qui vont dire écoutez, vous n'êtes pas vraiment affecté. Il n'y a pas de barrière de ce type-là?
Peut-être entre les très grands et les tout petits, non. Mais disons qu'entre ceux qui... Voilà, les docteurs, le nouveau docteur, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et puis, non, on est soutenus aussi par des chercheurs plus aguerris qui m'ont beaucoup aidé après la thèse pour me dire, viens dans ce laboratoire, on pourra t'aider. Il y a quand même une entraide qui est là. Oui.
Au quotidien aussi, quand on a une activité professionnelle et qu'on doit faire de la recherche en plus, sur ses heures de libre ou sur les week-ends, comment est-ce que... quelles difficultés est-ce qu'on rencontre? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de faire tout le temps le grand écart, par exemple?
C'est difficile. Il faut travailler les week-ends. Il faut travailler le soir quand on rentre. Oui, c'est pas évident. C'est une double journée. On n'a pas le temps qu'on voudrait. Mais c'est nécessaire parce que pour avoir des postes universitaires, il faut publier, il faut être dans la recherche, il faut être présent, il faut être visible. Donc, on ne peut pas avoir de poste, le poste qu'on voudrait de maître de conférence, de chercheur au CNRS, si on n'a pas ces publications. Donc, il faut le faire. Oui.
Et comment est-ce que vos collègues respectifs vous regardent? Est-ce qu'ils connaissent votre activité de recherche par ailleurs? Est-ce qu'ils vous considèrent comme... Est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce que ça leur inspire? Est-ce que vous en parlez au travail?
Oui, moi, je pense qu'ils comprennent parce que... Enfin, en tout cas, ceux qui ont vécu la même chose que moi, parce qu'on est beaucoup dans ce même rapport avec la recherche. Beaucoup d'entre nous ont un emploi à côté et continuent par ailleurs. Donc, c'est assez courant, en fait.
Oui, bah nous, on passe pour des uluberlus, quoi. Ils se promènent avec un filet à papillons. Alors, soit c'est gentil, soit c'est maintenant, c'est des fois agressif, parce qu'il y a une espèce d'écolo qui, voilà, qui sont contre la chasse aux papillons, entre guillemets. Enfin bon, voilà, même s'ils n'y connaissent rien. Mais non, mais on n'a pas de... Voilà. C'est vrai que... Tant que je travaillais, c'était difficile, quoi, parce que bon, ma famille a supporté mes fantaisies d'aller chercher les petites bêtes à des endroits toujours perdus, parce que j'aime bien les endroits perdus. Et puis bon, bah, le soir, c'est vrai que je travaillais, comme disait mon fils, à sa maîtresse qui lui disait « Qu'est-ce qu'il fait ton papa ?»« Mon papa, il travaille les papillons. » J'ai dû se dire, je ne sais pas ce que c'est cette famille. Oui, mais
c'est
bon.
Toujours dur à faire accepter par les non-universitaires ou ceux qui ne sont pas dans la recherche, parce que voilà, c'est comme quand j'allais fouiller à l'étranger, qu'on me disait mais tu pars en vacances, voilà, c'est bien, mais non, ou alors tu pars encore, mais c'est pas payé, et évidemment, oui, c'est difficile à faire accepter en dehors du...
Oui, si on est un chercheur académique financé, on peut se cacher derrière, bah, c'est mon métier.
Voilà, mais voilà. Sinon, non, il y a pas de... on peut pas se cacher derrière ça, non.
Juste pour revenir sur ce dont vous parliez tout à l'heure, au sujet du regard de vos collègues, ma question elle était un peu différente et finalement je voudrais la reposer. Je pense qu'elle elle marche pour tous les deux. C'est est-ce que quand des gens qui sont en poste et qui donc une activité de recherche financée dans un laboratoire se retrouvent à avoir la possibilité de travailler avec plein d'amateurs et donc de en une certaine manière profiter du travail de ces amateurs, est-ce qu'ils vont pas avoir tendance à justement s'accaparer une partie des découvertes parce que eux ils sont en place et puis ils peuvent le valoriser professionnellement d'un point de vue carriériste?
Oui, ça arrive. Oui.
Vous avez rencontré ce genre de situation?
Ça arrive partout dans tous les domaines. Hein, je veux dire, quelqu'un qui accapare, vous savez, dans les grands labos. Ou n'importe, ça arrive. On fait travailler le petit interne et voilà. C'est un problème de... Voilà, c'est un problème humain, c'est tout.
Et je pensais plus que c'est une précarité de situation qui fait que peut-être...
Non, c'est pas ça. C'est plus le rapport humain. Vous avez des grands pontes, entre guillemets, qui sont totalement accessibles. Vous voyez, quand il y a eu le projet Ibisca, qui a avorté dans les bois de la Comté, où il y a un entomologiste australien qui est venu, qui est prof à Brisbane, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé des rapports et bon, il m'a publié avec moi, je l'ai aidé à faire l'inventaire, voilà, et il n'y a eu aucun souci. Et moi, j'ai des tas de collègues, pareil, amateurs, qui ont travaillé avec un professeur d'université ou qui travaillaient avec quelqu'un du muséum et ils sont reconnus. Après, il y a toujours...
Oui. En fait, il y a bien quand même une éthique scientifique, un guide de bon comportement, des pairs et on vous le retrouvez quand même, il n'y a pas... C'est une question naïve qu'on pourrait se poser si, quand on imagine votre situation. Et c'est rassurant de voir que les humains, finalement, n'ont pas que des côtés négatifs, quoi.
Non. Après, vous avez toujours des...
Il y en a toujours des histoires, oui.
Des cas particuliers. Ouais.
Eh bien, je vous propose de faire une courte pause musicale. On va s'écouter un titre et puis on revient juste après.
blood of a leg of lamb. A leg of chickens, but never a leg of a potato.
Toujours dans l'émission Science Alors sur Radio Campus, et donc ce soir nous parlons de la science qui se fait hors des labos. Alors donc justement nous évoquions la situation de jeunes chercheurs comme vous Emmanuel qui recherchaient un poste dans l'université, hein, et vous êtes très nombreux en archéologie, en sciences sociales en général ou dans d'autres domaines, voilà. Et est-ce que vous avez l'idée de vous organiser avec vos collègues qui sont aussi dans cette situation un peu de précarité, est-ce qu'il
non,
existe ?
Non, absolument pas. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. C'est vrai que ce serait une bonne idée de faire un groupe pour s'entraider, parce que je pense qu'on est très nombreux. Non, je pense que c'est chacun dans son coin à essayer d'avoir un poste, de se battre. Il y a une concurrence assez rude, je pense.
Il y a certains codes pour être recruté qu'il faut apprendre, qu'on peut avoir qu'en étant dans un laboratoire.
Oui, il faut être dans un laboratoire et connaître des gens. Il faut, il y a tout plein de critères, comme je vous avais dit, il faut avoir publié, il faut avoir enseigné. L'idéal, c'est d'avoir été au-delà de vacataire, d'avoir été à terre dans une université au moins une année, ou d'avoir travaillé pour le CNRS, ou d'avoir fait un post-doctorat après. Et puis oui, il faut être appuyé par des chercheurs, puisque voilà.
Et est-ce que le fait d'être à Clermont-Ferrand ou plus généralement dans une petite ville de province, c'est un handicap de ce point de vue ?
Oui, le réseau est certainement moins important que pour Paris, par exemple, ou d'autres grandes universités. Après, on peut arriver à se faire un petit réseau aussi et voilà, et être accompagné quand même, même si ce sera moins influent pour avoir des postes. Au CNRS, par exemple.
Et alors, la difficulté que vous décrivez, elle est quasi générale ou est-ce que c'est quoi, une personne sur 10 qui finalement trouve un poste dans l'université ? Vous avez un peu une idée des proportions ?
Non, je n'ai pas d'idée de proportion. Je sais que, par contre, tout le monde a du mal. Tout le monde a du mal à avoir un poste. D'abord parce que pour être maître de conférence, il faut être qualifié. Donc, juste après la thèse, il faut passer un premier concours sur dossier qui peut être refusé et qui donc recale sur l'année suivante.
D'accord.
Une fois qu'on est qualifié, ensuite, il faut postuler. Et là, la concurrence est telle que les dossiers ne sont pas toujours acceptés. Et si on a la chance d'être pris, il y a encore beaucoup de candidats pour un poste. Et puis, il y a très peu de postes qui s'ouvrent aussi sur nos domaines. Hein. Moi, cette année, il y en avait un.
Toute la France ?
Oui.
D'accord.
Sur toute la France, il n'y en avait pas l'année dernière. Voilà.
Et la situation de précarité que vous décrivez, les gens, ils acceptent de la vivre pendant combien de temps avant d'abandonner ?
Ah, c'est une bonne question.
C'est peut-être
quel est le
dur,
délai que je vais me laisser
ouais, c'est vous, par exemple.
Moi, ça fait 2 ans et demi. J'ai encore espoir de, peut-être pas d'arriver au poste que je souhaite, mais au moins de travailler dans le domaine que j'avais choisi au départ. Après, non, je ne sais pas. Je sais que c'est très long, peut-être 4-5 ans, voire plus. Mais il faut avoir un métier à côté quand même qui fait vivre. Voilà, ça, c'est ce qui est primordial.
Et vous, est-ce que dans votre...
Alors, en entomologie, si on veut en faire son métier, On est confronté exactement au même problème. Il y a très peu de postes. Par exemple, au muséum, il y a 5 postes, donc il y en a un qui part à la retraite. Je pense qu'il y a 50 personnes qui vont vouloir prendre sa place. Après, dans les facs, on est, voilà, ou les grands instituts comme l'INRA, bon, le problème est exactement le même. Après, dans le domaine amateur, c'est totalement différent.
Mais vous, justement, est-ce que vous n'avez jamais songé à en faire votre métier ?
Non. Non, parce que je suis parti dans une autre voie, voilà, je suis parti dans la radiologie, bon, je m'aimais bien, et voilà. Mais peut-être aussi parce que j'ai rencontré, enfin, la personne que j'ai rencontré un peu plus tard, peut-être que j'aurais fait, voilà, eu envie de faire une fac de sciences, mais bon, à Clermont aussi, bon, ben, il n'y avait pas de débouché en entomologie, il n'y avait pas... Donc, sinon, ça devait rester une passion. Voilà, c'était une passion. Je crois que c'est pour moi indispensable d'avoir une passion, enfin des passions. La vie, je la considère intéressante qu'avec ça, parce que bon, il y a trop de choses pas très gaies. Et donc, ça m'équilibrait. Le travail à l'hôpital n'est pas toujours facile. Et par contre, bah, c'était ma façon de m'évader.
Avec les papillons,
voilà.
Et du coup, vous formez des jeunes aujourd'hui vers l'entomologie ?
Alors, dans l'association, c'est pour ça un peu qu'on l'a créée, à la fois pour mettre nos moyens en commun, nous rencontrer, nous s'aider et aider quand il y a des jeunes. Bon, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a toujours un renouvellement, mais peu rapide, parce que... Bon, le parcours scolaire, quelle est la place qu'on leur donne aux sciences naturelles réelles, quoi ? Est-ce qu'on leur fait découvrir, enfin, même à l'école primaire, je veux dire, autrefois, les vieux instits, il y avait toujours des chenilles, des trucs, des bêtes qui se baladaient, on allait se promener dehors. Là, maintenant, il faut que ça soit aseptisé. Moi, j'ai fait, je sais plus comment ça s'appelle, sciences en herbe, justement, j'ai amené des chenilles dans une école et j'ai bien senti que c'était pas très bien vu. Et voilà, mais la nature, c'est comme ça. Enfin, il faut pas d'interdit, il faut surtout. J'ai un copain l'autre jour qui allait dans la vallée de Chaudefour et il y avait un car. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un car fait dans la vallée de Chaudefour ? C'est une catastrophe. Et la première chose qu'on disait à ces pauvres enfants, attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Bon, il faut qu'ils aillent à Disneyland, il ne faut pas qu'ils aillent dans la vallée de Chaudefour.
Ils y vont peut-être aussi. Mais vous, Emmanuel, vous avez toujours pensé à faire votre métier depuis toute petite ?
C'est difficile à dire. Non, j'y suis venue petit à petit. Moi, c'est l'art qui m'intéressait au départ. Et puis, j'ai fait un premier stage d'archéologie en deuxième année, je crois, de licence. Et, enfin, de DEUG à l'époque. Et ça m'a plu. Donc, j'ai voulu continuer dans l'archéologie. Voilà.
Ce qui est intriguant, c'est que vos deux sciences, c'est les sciences de l'observation. En fait, si on prenait un peu de recul, on pourrait croire naïvement qu'elles se ressemblent énormément. Pour autant, on a l'impression que la transmission du savoir, elle est complètement différente. D'un côté, c'est très ancré institutionnel, j'irais, avec l'archéologie, où il y a vraiment une culture très ancrée dans l'université. Et à l'inverse, l'entomologie, ça voudrait dire qu'il faut qu'on rencontre quelqu'un un peu par hasard pour commencer à s'y intéresser.
On découvre ça tout seul. Enfin, voilà. La plupart de enfin moi c'est ça hein, c'est mais et puis la plupart de mes copains c'est ça, mais après oui, pour progresser c'est la rencontre avec quelqu'un qui fait que vous passez de l'amateur simplement qui regarde le papillon, qui a du plaisir à voir les papillons, à quelqu'un qui va faire ça de façon plus sérieuse, faire une vraie collection, faire des inventaires, publier, bon. Là, il faut une rencontre. Mais bon, en archéologie, il y a aussi des amateurs.
Oui, c'était ma question, justement. Je voulais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez des gens qui explorent ce domaine sans être universitaires, par passion ?
Il y en a à l'université, oui, qui viennent suivre les cours en auditeur libre et qui se passionnent pour ça. Après, fouiller seul, non, ça, c'est pas possible. Par contre, c'est interdit. Mais c'est vrai.
Les chantiers de fouilles sont souvent faits par des bénévoles.
Oui, par contre, oui. Là, en fait, il y a deux archéologies. L'archéologie programmée qui est faite par les universités et ce sont les étudiants qui fouillent lors de stages. Ça peut être en France ou à l'étranger. Et l'archéologie préventive où là, sont des professionnels qui travaillent notamment pour sauvegarder, enfin, pour connaître ce qui se passe dans le sol avant la construction d'un bâtiment ou autre. Donc voilà, c'est... Mais justement, l'archéologie préventive fait beaucoup de publicité autour de ça, et je pense que les jeunes aujourd'hui peuvent le connaître par le biais de ces informations et de communication.
Et pareillement, en entomologie, bon, tout ce qui est inventaire, pareil, avant une carrière, avant une autoroute, avant, la loi oblige à faire des inventaires, et ce sont soit des bureaux d'études, soit... généralement, ce n'est pas fait par des amateurs. Voilà. L'amateur y participe. Bon, moi, par exemple, je participe à certains inventaires à titre bénévole, mais il y a une structure. Voilà, on a une autre association qui est la Société d'histoire naturelle Alcide d'Orbigny, qui a, elle, deux permanents qui sont salariés et qui travaillent pour les parcs, pour ces inventaires-là.
Donc finalement, en regardant, je continue à prendre cette idée de recul et regarder vos deux sciences, dans les deux cas, il y a une grande porosité entre le monde académique et puis le monde, sur la place publique. En fait, il y a des gens qui s'y intéressent depuis tous ces corps-là. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a peu d'entreprises qui s'y intéressent. Est-ce que je me trompe ou c'est vrai ?
Non, ça ralentit les chantiers. C'est pas très agréable pour les aménageurs, mais...
Non.
Bon, voilà.
Le côté, par contre, alors en archéologie, c'est assez simple. Si on trouve quelque chose, en effet, ils ont l'obligation. En entomologie, il y a un côté pervers, c'est la protection des espèces. En fait, les bureaux d'études, ou du moins certains, ne s'intéressent qu'aux espèces protégées. On dit les espèces qui ont tous leurs papiers. ce qui est très réducteur et complètement, enfin, un peu idiot, cette protection de... Il y a une quinzaine d'espèces de papillons qui sont protégées. Alors, et pourquoi cela et pas d'autres ? Il y a des législations françaises, européennes. Ils ont même protégé un papillon qui est, parce qu'ils se sont trompés de nom, qui est ultra courant. Et donc, du coup, ça fait un biais. C'est-à-dire qu'on va dire, s'il y a cette espèce-là qui est protégée, alors là, je ne dis pas que ça va arrêter l'autoroute, ça n'arrête pas, mais il y a des compensations. Mais par contre, il y a plein d'autres espèces. La protection, elle passe plus par la protection du biotope, du milieu. C'est là-dessus qu'on se bat depuis des années, non pas de protéger l'espèce en soi. Le papillon, il va vivre... Il y en a, ils vivent 15 jours. Je veux dire, il sort, il se reproduit, il meurt. Bon, si vous en attrapez un, ça ne changera rien à sa reproduction. Il a déjà pondu, et il va disparaître parce que les papillons fossiles, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce biais-là qui est un biais... c'est pour se donner bonne conscience, un peu face à la folie humaine.
je vous posais cette question-là parce que dans beaucoup de domaines, on voit les sciences soutenues par le monde industriel. Notamment, on voit apparaître des start-up qui sont issues de l'université où finalement, on se rend compte que l'entreprise, elle émerge des activités de recherche ou au contraire, elle alimente par ses besoins les problématiques de recherche. Est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer le peu de soutien financier dans vos deux domaines par cette raison-là ? Est-ce que ça vous paraît probable ?
C'est peut-être le peu de retombées. Moi, je sais que, par exemple, je ne sais pas si je peux le dire, mais L'Oréal qui donne des bourses, notamment à des chercheuses qui font avancer la science, mais c'est souvent dans les sciences dures où il faut qu'il y ait un intérêt médical ou sur la nutrition pour... ou la beauté pour L'Oréal aussi, parce que je sais que Nestlé le fait aussi. Mais moi qui avais travaillé sur l'hygiène et les soins corporels, je n'ai pas pu entrer dans le cadre de cette bourse L'Oréal parce que moi, il n'y a pas d'intérêt sur ceux qui sont vivants aujourd'hui de connaître ça. On ne peut pas créer un...
Il y a des aides, des sponsors, mais quand on fait des grandes expéditions. Bon, l'expédition Canopée au Laos est soutenue par des grandes entreprises. L'expédition Wanatu, Santo, c'était aussi des grandes entreprises. Mais parce qu'il y a une retombée. Il faut qu'il y ait un film, il faut se voir. Aller chercher le petit papillon de 4 mm en Auvergne, on n'aura pas de soutien.
ou rarement. Il y a des tests qui sont financés par les entreprises. Je sais que Michelin ou La Poste ou même la SNCF demandent des fois, mais c'est sur des détails très précis de l'entreprise elle-même. Voilà, c'est...
Alors pour finir, puisqu'on en arrive à la fin de cette discussion, est-ce que vous avez la sensation que pour vous, c'est plus difficile en tant que non soutenu ou non financé de diffuser vos découvertes ou vos explorations au public par rapport à quelqu'un qui y aurait un laboratoire derrière lui. Est-ce que vous avez réussi à faire des démarches de vulgarisation, par exemple, sur vos problématiques personnelles de recherche ?
Non, c'est déjà difficile d'en faire dans les revues scientifiques, alors non.
Alors en entomologie, oui, un peu plus facilement. On fait des expositions, quelques expositions, on fait des conférences dans les différentes sociétés. Donc, bon, on peut de temps en temps intervenir dans des écoles, des choses comme ça, pour essayer de faire connaître un peu. Voilà, mais ça se résume à ça.
Aussi, lors de la Semaine de la Science, on présente souvent les sites archéologiques, mais très peu ce qu'on fait en thèse ou dans la recherche en elle-même. Voilà. C'est toujours montrer le bel objet qu'on a trouvé.
Bon, alors finalement, on est quand même toujours autant solitaire, finalement, qu'on soit financé ou non.
C'est un travail solitaire.
Enfin, plus ou moins, disons, parce qu'on arrive.
Oui. Mais d'un autre côté, enfin, au moins pour l'entomologie, on est libre.
Je vous remercie beaucoup. On va écouter un titre et puis on se retrouve juste après pour la réponse de l'énigme.
Toujours sur Radio Campus dans l'émission Science Alors. Et tout de suite, donc, nous allons donner la réponse à l'énigme géographique que nous avions entendue tout à l'heure. Et je crois que nous avons donc un auditeur en ligne, un auditeur donc, qui va proposer sa réponse. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, vous avez une hypothèse.
Au bord de la mer. Je pense que c'est le Liban. La réponse, c'est le Liban.
Bravo, bravo. Nous vous applaudissons tous dans ce studio. Bon, nous tenons quand même à dire que nous avions un de nos invités qui y avait pensé également.
D'accord.
Donc voilà, le Liban. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez reconnu des voix ou des sons, des extraits musicaux ?
En fait, ce qui est... Premièrement, je veux vous remercier pour cet épisode d'émission. Et c'est surtout, en fait, le passage d'Ibrahim Malouf au début, qui est un franco-libanais et qui a exprimé le fait que le Liban, c'est sa source d'inspiration de sa musique.
Voilà.
C'est bien la musique qu'on entend maintenant. Est-ce que c'est bien ça ?
Et c'est exactement ça. Donc, il y avait ce formidable trompettiste qui est Ibrahim Malouf. Et je ne sais pas si vous avez reconnu, mais l'homme qui disait que le Liban était une montagne au milieu de la mer, vous savez qui c'est ? Vous l'avez reconnu ?
C'est Amin Malouf.
Exactement, c'est Amin Malouf. Voilà, nous avions ensuite des extraits donc d'actualité autour de la prise d'otage libanais, notamment de la femme de Jean-Paul Kaufmann. Puis nous avions un petit extrait d'un reportage qui était diffusé sur France Culture en 1988, qui rappelait la cherté des prix évidemment de l'immobilier suite aux destructions. Et puis, alors, je ne sais pas si vous êtes arabophone et si vous avez compris le petit extrait qu'il y avait en arabe.
Oui, en fait, je suis libanais et je vis sur Clermont. Et je travaille sur Clermont. Donc, c'est comme ça que j'ai bien compris aussi l'expression qui a été dite en arabe aussi. Donc, ça parle en fait du Liban, c'était un extrait de Amin Malouf, mais je ne me souviens pas exactement de ce qui a été dit.
Alors en fait, c'est pas une traduction d'Amin Malouf, hein, c'est une traduction de Khalil Gibran en fait. Hein.
Ah, d'accord.
Donc qui parle effectivement du Liban. Et le dernier groupe, donc c'était un groupe américain, hein, donc j'entends en anglais, peut-être l'avez-vous reconnu ?
Non, pas du tout.
Donc là, c'était un petit peu piégé, hein, mais il s'agit du groupe Beyrouth. Hein. Voilà, Voilà, et bien écoutez, bravo, hein, nous vous félicitons encore, et donc si vous le souhaitez, hein, vous nous rejoignez à l'issue de cette émission rue des Georges pour partager un verre.
Avec plaisir, avec plaisir. Et j'aimerais bien aussi profiter et partager une citation de Jean de la Bruyère aussi, qui est un philosophe, français et qui a dit en fait « La campagne autour est couverte d'hommes, qui taillent et qui coupent, qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui charrient le bois du Liban, l'airain, le porphyre. » Et ça, c'est un message et c'est une citation que j'aime très bien, en fait.
Mais écoutez, nous vous remercions. Merci beaucoup pour la réponse et pour cette citation.
Et merci pour cette émission.
Au revoir à vous, alors. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Donc nous allons passer maintenant à l'agenda scientifique.
Tout à fait. Alors on va tout de suite aborder quelques dates importantes dans le mois à venir qui pourront vous intéresser au sujet de la science à Clermont-Ferrand. Alors je vous propose, ce sera le 29 mai 2013 à la Chapelle des Cordeliers, ce sera à 18h30, une conférence de Delphine Martineau qui est professeure de psychologie sociale. Donc c'est une conférence dans le cadre des dernières nouvelles de demain. Et le thème, eh bien, ce sera l'égalité des sexes à l'école. Ensuite, le lendemain, le 30 mai 2013, ce sera à l'IFMA, ce sera dès 9h45. C'est une journée de présentation des lycéens qui ont participé à Acroscience. Alors, Acroscience, c'est un événement qui s'est déroulé toute l'année et c'était un chercheur dans la classe. C'était un projet comme ça où on invitait les chercheurs à venir échanger avec les lycéens. Et alors, c'est une journée de présentation à l'IFMA qui est proposée de ces lycéens et puis de leurs explorations avec les scientifiques. Et enfin... Eh bien, le 8 juin 2013 à 14h, je vous invite, si vous avez l'envie, à aller découvrir l'actualité des fouilles de la gare routière. Alors, c'est l'Association des Amis des Musées de Clermont-Ferrand qui organise ça. Et puis, pour les contacter, eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association ou alors à appeler Luc Genévrier au 04 73 27 06 82. Alors, aujourd'hui, eh bien, la programmation musicale de l'émission était proposée par Claire. Nous avons écouté Pony de Deluxe et puis Got What It Takes de Coco Taylor. Les invités que nous avions autour de cette table étaient François Fournier et Emmanuel Fournier, sans lien de parenté. Nous avons également pu discuter à l'antenne avec un auditeur, Yeya. Enfin, vous avez peut-être entendu distinctement ou non derrière nous, Jean, le petit bonhomme de 3 ans qui jouait et dessinait sur la table d'à côté. À la technique aujourd'hui, c'était Laurent. Cette émission était animée par Cécile, Claire et moi-même, Jean-Marie. Vous pouvez écouter et réécouter les émissions de Science à l'Or sur le site internet http://sciencealors.fr. La prochaine émission se tiendra le 17 juin 2013 à 19h et aura pour thème la pluridisciplinarité. En attendant, eh bien, restez sur Radio Campus et à l'antenne tout de suite après, c'est Génération Manga.
Tions alors.
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velocotelée.